Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Voilà pour une nouvelle soirée en votre compagnie, Time Sport, 20h-21h en ce jeudi 10 février 2022. Et au menu de cette émission, eh ben on parlera de quoi ? De Zuma au cœur de cette fameuse polémique. Et oui, outre-Manche, chez nos voisins anglais, Coupe de France, l'OM favori naturel au titre, peut-être. Allez, on reviendra sur l'Olympique de Marseille, mais pas que aussi, sur l'FC Versailles qualifié, 5 buts à 4 hier soir au tir au but. Et encore, le Barça qui passe son tour au naming, et oui, ce fameux New Camp. N'oubliez pas, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et aussi sur la page Twitter de l'émission Time Sport. Allez, on y va, c'est parti, go go Time Sport.
Time Sport. Le sujet des socios.
Allez, avant le premier sujet des socios, pour m'accompagner en ce jeudi soir, on aura Diezone. Diezone, comment ça va ?
Ça va, Bilal, et toi ?
Ça va très très bien, Diezone.
Ravi d'être là.
Oui, ravi d'être là. Allez, un petit accent, non, même pas. Une légère pression, on entend dans sa voix, Diezone. Hein. Peut-être
bon,
c'est l'approche de ce huitième de finale. Voilà, là, il n'y a plus la pression. Bon, elle s'efface. Ouais, on a Samir avec nous ce soir. Comment ça va, Samir ?
Bah, bonsoir tout le monde, en fin de semaine, donc voilà, ça fait du bien, content d'être avec vous.
Ah bah, nous aussi, Samir. Kevin est là encore soir avec nous.
Eh bah, merci Bilal encore de m'accueillir ici pour ce beau vendredi ensoleillé.
De titularisation.
Il est là, notre Xerrois. Et Terence avec nous aussi, comment ça va Terence ?
Ça va bien, je te remercie, merci pour l'invitation, ravi de revenir. Deux jours de suite, je vais faire gaffe au claquage. Hein,
Allez, justement, Zuma, au cœur de cette fameuse polémique, ça fait pas sourire, justement. Hein. Assez incroyable, quand même, ce qui s'est passé. Ouais, oui, Diezone, on t'écoute.
Ouais, c'est stupide, c'est grave, c'est tout ce que vous voulez. Bon, hier, tout le monde a été surpris. Hier, tout le monde a été surpris de voir Kurt Zuma aligné directement, même pas 24 heures après la polémique, contre Watford. En plus de ça, il a fait un match assez pas mal.
Il a été sifflé en
plus. C'était particulier.
Il, costaud, hein.
Il a fait un bon match. Il a réussi à faire un bon match, même s'il a eu du mal à rentrer dedans, justement, avec les sifflets et tout ce qui s'est passé. Donc, c'est vrai que beaucoup de monde ont eu du mal à comprendre la décision de West Ham. Apparemment, tout a été acté en interne.
C'est ce qu'a dit le coach, hein, il a dit. C'est mon meilleur joueur derrière, donc.
C'est ça.
Donc, je me passe pas de lui.
C'est ça.
C'est un fait externe et moi, je vois que le côté sportif et dans un sens, il a raison. Il fait avancer son équipe.
Ouais.
Après, va savoir est-ce que du côté de la France et la sélection nationale, on sait que Didier Deschamps fait très attention au comportement des joueurs. Est-ce que ce sera aussi souple en France avec ce qui se passe moi, je suis pas sûr.
Je ne sais pas.
Il va certainement payer.
Alors Kevin,
il va certainement payer les pots cassés de ses actes après ce qu'il a fait. C'est pas tolérable. Hein. Je veux dire, après, maintenant, la décision, elle appartiendra à Didier Deschamps. Après, déjà, dans un premier temps, on parle de son club. Son coach a décidé de l'aligner. Bon, bah, c'est un choix. Après, on le respecte ou non. Moi, personnellement, j'aurais pas forcément été pour. Après, ça reste que mon avis. Hein.
Bien sûr.
C'est comme ça. Hein.
Ouais.
Il y a des sanctions quand même qui sont tombées.
Ouais, alors lesquelles ?
300 000 euros d'amende pour Kurt Zuma, quand même.
Donc, Zuma.
C'est les fameuses sanctions internes. Après, on sait que pour des joueurs comme ça, en première ligue, c'est pas non plus.
C'est 8 jours de salaire.
Ouais, il n'est pas non plus dans le rouge, mais bon, c'est quand même une sanction conséquente. Rupture de contrat avec Adidas, donc son sponsor officiel.
Ouais, quand même, ça, c'est.
Par contre, ça fait mal.
Là, ça commence à devenir sérieux. Et puis, il y a le club qui est impacté directement au West Ham, avec un sponsor Vitali. Donc, c'est un sponsor qui refuse maintenant de continuer avec West Ham. Sûrement, j'imagine, parce qu'ils ont continué avec Zuma. Donc, commence à y avoir quand même des conséquences.
Et il y a eu des faits. Bon, un chat maltraité, des plaintes, des pétitions, des amendes, tout ce que l'on veut, une rupture avec l'équipementier. Mais c'est vrai, Samir, cette communication, peut-être, à avoir, et le manque de finesse de certains athlètes. Et oui, et on le voit encore une fois avec ce footballeur français. Kurt Zuma. Non, mais vraiment.
On se demande des fois.
On a vu des épisodes similaires un peu. Bon, pas de la sorte, mais au Paris Saint-Germain, par exemple, il y a une époque.
On en a parlé en off. Il est évident que ce style de vidéo ne doit jamais sortir. J'imagine que tu parles de confidentialité. Ça ne doit jamais sortir, normalement, ce style de vidéo. Alors, évidemment, maintenant, aujourd'hui, on le sait. Mais moi, j'ai tendance à penser que quand on doit parler d'un joueur de football, c'est qu'on va parler en fait de ce qu'il a fait sur un terrain de foot, mais pas en dehors. Et là, malheureusement, encore une fois, on a encore un joueur français qui fait parler de lui sur un fait divers. Et j'ai lu mais tellement d'articles de presse à l'étranger qui parlaient en fait du caractère en fait des joueurs français pour leur manque de discipline. Et malheureusement, encore une fois, pourtant, j'ai pas le souvenir que Zuma ait fait parler de lui. Auparavant,
énormément de gens autour de lui sont surpris des coachs, des anciens coachs, des dirigeants, beaucoup de monde.
Et du coup, et même un joueur comme lui aujourd'hui, aujourd'hui il fait parler de lui. Franchement, la vidéo, évidemment que je l'ai vue comme tout le monde, elle m'a mais tellement pas fait rire. Hein. Je suis pas du tout un défenseur, de la cause animale ou déchets, etc. Ouais. Mais ça m'a mais tellement pas fait rire. Mais c'est tu peux pas faire un truc comme ça.
A priori,
c'est son frère qui filme.
Footballeur aussi son frère. Incompréhensible. Ils sont censés connaître les codes.
En train de rigoler. En fait, moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai pas souri une seule fois. Ça m'a pas fait rire. Je ne sais pas qui a rigolé en regardant cette vidéo-là, mais ça m'a pas fait rire. Et maintenant, aujourd'hui, tant pis pour lui. Voilà, il va assumer les conséquences d'un acte comme celui-ci. Et je trouve dommage pour lui, pour son club, pour la Première Ligue, pour le football français. Donc, c'est vraiment dommage.
Oui, Ferrand, c'est Kevin.
Moi, ce que je trouve dommage, c'est que surtout un joueur comme Zuma et son frère, qui effectivement est dans le milieu, quand tu connais les codes, tu sais que maintenant, avec les réseaux sociaux, ça va tellement vite. Et puis on a eu un exemple il y a peu de temps quand tu prends Kurzawa ou ainsi de suite, tu fais le parallèle avec le PSG, tu sais que ça va à 2000 à l'heure et comment flinguer une carrière, il n'y a rien de pire. Et tu t'aperçois que très souvent, malheureusement, c'est l'entourage qui met le joueur, excuse-moi du terme, dans la merde. Et c'est pourtant, c'est pas faute derrière d'avoir un agent, d'avoir un conseiller d'image, d'avoir tout un tas de choses. Et tu t'aperçois qu'effectivement, moi je ne cautionne pas du tout ce type de choses, je ne suis pas non plus spécialement pour la cause animale. Et si vraiment tu fais ça, à ce moment-là, ça reste en interne. Surtout que son frère diffuse ça, c'est juste aberrant. Tu t'aperçois toute la connerie humaine, parce que tu sais que derrière, il y a quand même, c'est pas un joueur de CFA. Tu vois ce que je veux dire ? C'est derrière, t'as quand même, tu parles d'un joueur.
Un impact international, quoi.
Et Bilal, on peut peut-être faire un parallèle sur. On en parlait en off, mais tu vois, sur ces joueurs de foot aujourd'hui qui, avec les réseaux sociaux, font parler d'eux, mais autrement, t'as des joueurs de foot aujourd'hui qui donnent un peu leur avis parfois politique. T'en as d'autres qui donnent, qui essayent de, genre, à l'instar de Patrice Evra, sa carrière est finie, mais qui essayent de rentrer dans des délires humoristiques dans les réseaux sociaux. J'ai envie de te dire, en fait, fais comme les anciens de France 98. Voilà. Joue ton rôle. Tu es footballeur professionnel, sois footeux. Quand t'auras fini ta carrière, à la limite, si tu veux te mettre sur autre chose, fais-le, mais là concentre-toi sur ta carrière. Aujourd'hui, t'as des joueurs de foot, ils sont footeux, mais à côté ils sont photographes, ils sont dans la mode, c'est des humoristes, les mecs, arrêtez, jouez au football.
Jouez au football, c'est le coup de gueule. Vas-y Terence.
Samir, apparemment, sur ce que disait le,
on va écouter
Ralf Rangnick là, sur à la mi-temps, à la fin du match de United, il a pété un plomb, il a dit plutôt que d'être Instagrammeur ou ainsi de suite, déjà essayez d'être footballeur
plutôt que
de ramener votre tronche sur les réseaux sociaux.
La nouvelle ère, c'est malheureusement.
Quand tu vois maintenant Pogba qui.
Tu vois ce décalage générationnel, comme tu disais tout à l'heure, Kevin. Avec l'équipe de France 98 ou autre, mais là ça manque de bon sens, ça manque de maturité, ça manque d'intelligence. Concentrez-vous sur votre travail, les gars, vous faites le plus beau métier du monde. Qu'est-ce que tu vas sortir une vidéo comme ça?
D'être consultant sur Beurre FM.
C'est vrai que moi j'avais eu le débat hier avec des amis par rapport à ça, les réseaux sociaux, comme disait Samir. Je me dis, mais à l'époque aussi, il y avait quand même des têtes brûlées, on va dire. Et je pense qu'avec les réseaux sociaux, je pense que certains joueurs, je pense qu'un Anelka avec Instagram en 2002. Je sais pas ce que ça aurait donné, mais c'est vrai qu'on se disait, on a l'impression qu'aussi ils sont quand même moins soucieux aujourd'hui.
Mais Jason,
ils ont l'air moins soucieux.
Mais Jason, aujourd'hui, Anelka, il a Instagram. Il fait pas parler de lui sur Instagram. Evra, l'inverse, il fait parler de lui sur Instagram.
C'est vrai. Mais après, tu prends une maturité. Je pense qu'il arrive à des âges, on a tous la quarantaine maintenant.
Ouais.
Je pense qu'il y en a, ils ont envie de faire parler d'eux. Il y en a, ils vivent mal un peu l'après-carrière. Mais c'est vrai qu'on peut dire que les anciens ont eu aussi peut-être cette chance connu. C'est peut-être une chance finalement de ne pas avoir connu tous ces réseaux. Après, il y a peut-être aussi un mélange d'intelligence. Peut-être qu'aussi à l'époque, quand tu étais jeune, tu étais moins. On va dire idiot, parce que c'est idiot ce qui se passe par rapport à Zuma.
Je vais être un peu chiant ce soir et tout, mais alors ils font quoi là? Tu sais, t'as plein de métiers qui émergent autour du football. Les conseillers en communication, ceux qui gèrent les images des joueurs. Qu'est-ce qu'ils foutent alors?
Eux-mêmes ils prennent tellement d'argent que est-ce qu'ils ferment pas un petit peu les yeux sur des choses un peu.
Aïe. Ouais, mais là c'est pas bon. C'est pas bon.
Il y a tellement d'argent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur autre que du football en fait.
Sauf que la problématique, tu t'aperçois, même si tu peux mettre les joueurs dans un cadre dans un environnement avec une structure, avec un conseiller financier, un conseiller d'événements, de communication pour le jeu, t'aperçois que le joueur il est jamais à l'abri de péter un plomb.
Ouais.
Si c'est passé avec Zuma. Et c'est
aussi
ça en fait. T'as ce côté maintenant non gérable avec un joueur sur lequel du jour au lendemain, s'il y a un feu rouge, il y a un mec qui klaxonne ou qui tape la vitre, ça va tellement vite. Tu prends ton téléphone, tu vois pour tout dans les faits divers.
C'est vrai qu'avec le développement des réseaux sociaux, comme tu dis, c'est vrai que le risque il est beaucoup plus grand aujourd'hui. Après, je pense quand même, mais comme je disais tout à l'heure, voilà, il y a quand même un décalage entre les générations.
Ouais,
c'est flagrant. J'aime pas comparer, mais regarde 98-2018. Il y a juste à regarder, par exemple, les yeux dans les bleus à l'époque, dans 98, où tu vois un petit peu les gars quand ça discute, ça résonnait.
Ça n'a rien à voir.
Ça résonnait. Aujourd'hui, les conversations, ça va pas plus loin que le bout de mon nez, quoi. Pourtant, il est bon.
Ouais. Non, quand même pas. Kevin.
Oui, ça commençait déjà quand tu prends, si tu parles les yeux dans les bleus, ça commençait déjà à la Clairefontaine. Je sais pas si tu te souviens.
Oui, déjà, t'avais
déjà quand prémices. Tu commençais déjà sur prémisse avec à la Clairefontaine, déjà, tu voyais que t'avais un changement générationnel. Et quand tu prends maintenant, toujours un peu dans le ballon, tu aperçois que même les jeunes générations, maintenant, tu t'aperçois.
On est de plus en plus.
Avant de commencer un match, ils ont déjà posté la couleur de la pompe de la Copa, de la Vapor, le machin, tu remets du strap.
On est dans un monde qui rend de plus en plus égocentrique, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui font attention, un peu trop même, à ce qu'ils vont dégager. Et même dans leur discours, pour certains. Aujourd'hui, voilà, tout est calculé par rapport aux réseaux sociaux. Il y a des choses qui, il y a un naturel qui s'est un peu perdu dans le foot.
Tu vois aujourd'hui comment c'est pas du tout une surprise que N'Golo Kanté soit un des joueurs préférés des Français. Ouais. N'Golo Kanté se serait mais tellement fendu dans France 98 en fait. En fait, il est pas du tout dans le game des autres.
Exemple parfait.
Après, il a le parcours qu'il a avec N'Golo Kanté.
Mais c'est vrai que tu regardes, même l'humilité, c'est une vertu qui est en train de se perdre de plus en plus. Et ça, c'était tout. C'est tout.
Merci Kevin. Vous restez avec nous, chers auditeurs. Auditeurs de Beurre FM, on marque d'une courte pause avant de revenir pour la suite de cette émission.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM après cette courte pause. Et oui, toujours en live jusqu'à 21h avec toute l'équipe qui m'accompagne ce soir. On a Diazon, on a Kevin, on a Samir et sans oublier Terence. Allez, on va parler un peu de futsal, c'est parti.
Time Sport, la troisième mi-temps.
Elle est avec cette troisième mi-temps avec toi, Kevin, justement, on t'écoute.
Eh oui, moi je voulais parler un petit peu de futsal parce que c'est un sport qui n'est pas forcément beaucoup mis en lumière, alors que paradoxalement, ça reste quand même un sport qui a de la bouteille. Hein. Un sport qui n'est pas né de la dernière averse, mais bien des neiges d'antan, comme disait notre ami Georges Brassens, puisqu'on remonte aux années 30 et en Uruguay avec la création de ce sport au sorti de la première Coupe du Monde. Alors je voulais parler un petit peu de cette discipline qui est dominée par le Brésil, qui détient quand même 5 titres mondiaux, mais actuellement c'est le Portugal qui domine clairement les débats puisqu'ils sont champions du monde en titre et double champion d'Europe. Alors une statistique impressionnante que je voulais vous sortir, peut-être
alors
que vous
laquelle
savez pas. Vous savez qu'il y a quand même 25 millions de personnes qui pratiquent ce sport dans le monde, répartis dans plus de 100 pays, donc ça n'est quand même pas rien.
Ouais, c'est vrai.
Au Brésil, pays où le football est roi, on compte quand même plus de licenciés de futsal que de licenciés de football. Alors je sais pas si vous le saviez, mais moi ça m'a un petit peu abasourdi. Donc je trouve ça assez bluffant. Après, bluffant oui et non, dans le sens où en ayant traîné quelque part un peu mes guêtres en Amérique du Sud, j'ai vu notamment que au Brésil, même en Uruguay, il y avait forcément beaucoup de terrains de football, mais aussi énormément de terrains de futsal. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment très très développé en Amérique du Sud, mais aussi en Europe du Sud, notamment en Italie, au Portugal. Ouais. Et en Espagne, où on compte à peu près un peu plus d'un million d'eux de licenciés dans le pays ibérique. Alors en France, ça a mis un petit peu de retard avant d'arriver. On a un petit retard avec nos pays voisins.
Ouais, mais c'est là quand même.
Alors je vais pas dire qu'on en est au stade embryonnaire. Je vais pas dire non plus qu'on est en plein essor. Faut pas exagérer, mais on est vraiment dans une période de développement qui est de plus en plus, on va dire, exponentielle, puisque le nombre de licenciés ne cesse de croître. Hein. Donc je crois qu'on est à peu près à 30 000 licenciés. En France, donc c'est quand même déjà plutôt pas mal. Alors ça reste quand même minime par rapport au nombre de licenciés qu'on peut avoir dans le football, parce qu'on a à peu près 2 millions de pratiquants, mais ça reste quand même quelque chose d'assez, on va dire, assez conséquent. Et cela se ressent, notamment si on pense à l'équipe de France de futsal qui peine encore un petit peu à rivaliser avec les grosses écuries nationales, même si on est en train de passer un cap avec des joueurs de haut calibre comme Abdessamad Mohamed, ou alors des petits jeunes émergents comme Nelson Lutin, je sais pas si vous connaissez, qui est un petit peu comparé Kylian Mbappé, pardon. Donc,
sa mère, il connaît.
Oui, il connaît, ouais. Et alors, Comparer pourquoi? Bah parce qu'il a des similitudes tout simplement avec le Parisien, hein, que ça soit sa vitesse, sa technique, ouais, sa capacité de dribble et puis surtout sa précocité.
Mais il déteste qu'on le compare à Kylian Mbappé.
Ah bah j'imagine, non, il a envie de garder sa personnalité puis sa singularité, ce qui est tout à fait compréhensible. En tout cas, il est vraiment porteur d'espoir, donc il y a quand même des signaux positifs pour l'équipe de France de futsal, avec aussi une première participation au championnat d'Europe en 2018. Alors, une équipe de France compétitive, ça passe aussi par un championnat compétitif. Donc, on a aussi la chance d'avoir un championnat donc de D1 de futsal qui élève un petit peu son niveau, avec notamment l'arrivée de Ricardinho il y a quelques années. Donc, il a été quand même élu 5 fois meilleur joueur mondial, hein, consécutivement de 2014 à 2018. Et on a aussi des clubs comme Villeneuve-la-Garenne, Asnières, le Paris ACCS, qui a fait une belle prestation aussi de futsal l'année dernière, en étant éliminé notamment face aux finalistes du FC Barcelone, avant d'être malheureusement rétrogradé pour des raisons financières par la DNCG en deuxième division. Mais moi, je voulais pas forcément vous parler du Paris ACCS, mais plutôt de l'étoile lavalloise, Mayenne Football Club. Parce que moi, je viens de la Mayenne, donc j'aimerais faire une petite dédicace et développer un petit peu ce formidable club,
ouais,
créé en 2006 donc par Julien Moreau, donc est président et fondateur, et un club qui pour moi a du mérite, puisqu'ils sont vraiment partis de zéro. Ils ont gravi les échelons patiemment, un à un, pour accéder donc cette année au plus haut niveau national. Donc ils ont quand même un bilan des plus honorables. Ils ont battu 2 équipes du top 4. Ils occupent actuellement une 5e jolie place. Donc ils ont battu Toulon, Nantes Métropole. Des performances quand même assez remarquables, récompensées par un travail et de la persévérance. Alors, une petite chose importante, je vais faire une petite aparté. Vous savez qu'il y a deux parrains.
Ouais.
Les deux parrains, alors vous devez certainement les connaître. Les deux sont lavallois. Le premier, c'est Ousmane Dabo, passé par l'Inter, passé par City entre autres, et formé au Stade Rennais. Et le deuxième, il vient juste de signer au FC Barcelone. Il est gabonais, qui sait?
Ouais.
Pierre Aubameyang, qui est lavallois et voilà, qui est parrain du club. Donc ça aussi, ça fait un petit peu de publicité. Et puis je pense qu'il y a ce qui a été aussi important, c'est le nez creux, je veux dire le nez fin de Julien Moreau, donc qui a la Giroud, on va dire, et a été déniché en Belgique l'entraîneur actuel André Van der Ley. Donc entraîneur de l'étoile depuis, on va dire, 2016, donc un coach belgo-brésilien, donc doté d'un énorme vécu déjà en tant que joueur, parce que c'est lui qui est quand même détenteur, on va dire, du record de nombre de buts en Ligue des Champions, hein, 54 unités à son compteur. Donc il a quand même un impact assez important, je pense, dans la réussite du club aujourd'hui. En tant qu'entraîneur, il a déjà remporté 2 doublées coupes championnat en Belgique. Donc on parle vraiment d'un entraîneur qui a une grande part de responsabilité dans la réussite actuelle de l'étoile lavalloise, dans un sport où on a tendance à l'oublier, où la concentration doit être extrême, les prises de décision sont instantanées, où l'on exige un niveau des plus élevés, que ce soit tactiquement, techniquement, physiquement et mentalement, un sport qui se joue vraiment à haute intensité, où généralement les gars sortent toutes les 3 minutes. Hein. Donc vraiment pour garder une certaine intensité. Donc petit point aussi, je voulais faire sur le mercato hivernal, parce que l'étoile lavalloise a recruté 2 joueurs vraiment très intéressants, le capitaine de la section du Maroc, Soufiane El Mesrar, et aussi Bilal Bakkali, donc tous 2 champions de France en titre, notamment avec le Paris ACCS. Donc des recrues qui sont venues enrichir déjà un effectif très qualitatif, un joli melting pot, hein, puisqu'il y a des joueurs qui viennent du Brésil, ouais, d'Afrique du Nord, d'Europe, on a un gardien aussi qui est porté en équipe de France. Donc voilà, ça fait pas mal de choses. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est l'espace Mayenne, c'est le 6e homme. Parce qu'en fait, en Mayenne, on a une infrastructure qui est toute récente, où évolue en fait l'étoile lavalloise, et qui peut accueillir jusqu'à 3000 personnes. Donc en général, on a quand même pas loin de 3000 personnes à chaque match, si on a battu en fait en 2021, sur l'année civile, le record d'affluence nationale. Donc ça n'est quand même pas rien, surtout pour une ville comme Laval, qui représente que seulement 60 000 habitants.
Ouais.
Avoir cet impact, moi je trouve ça donc vraiment magnifique. Donc je trouve que l'étoile est un formidable ambassadeur, on va dire, du futsal, car il tend à le populariser
en France,
tout à fait. Ouais. La ferveur naissante qui en découle, associée à la médiatisation, on va dire, locale, peut servir aussi de formidable tribune à l'échelle nationale. Donc voilà, je vais juste finir pour remercier Reginald Rousseau, qui m'a initié au futsal en 2008, après une soirée bien arrosée, un nouvel an, il s'en rappellera, accompagné de mon ancien coach Jeff Bodinet. Donc voilà, rendez-vous le 19 février à Laval face au leader, le Sporting Club de Paris, et ce samedi, l'étoile se déplace à Toulouse. Donc voilà, merci pour cette petite aparté, j'ai dû faire vite. Mais voilà, le plaisir y est, le cœur ici.
Mais c'est ça, en tout cas, merci.
Bravo,
merci pour toutes ces informations. Bon, on aura compris, tout le monde à Mayenne, c'est ça. Voilà, ah, de le week-end prochain.
La Mayenne, voilà. Laval, situé en
les auditrices et les auditeurs de Beurre FM. Bien sûr, on nous écoute de ce coin de France. Oui, Terence, peut-être avec Samir aussi, qui connaît quand même assez bien ce futsal.
Oui, bah
rapidement.
Bah déjà bravo hein, pour cette orale, Kevin, parce que c'était joliment dit. Puis effectivement, j'ai eu la chance de co-présenter l'émission. Peut-être que tu as dû voir Futsal Club l'année dernière avec justement l'ascension de Access en Champions League. Et justement, il y a effectivement un effort qui est fait au niveau de la D1 futsal et même un petit peu moins, mais aussi de la D2 du futsal français. Et je te rejoins, effectivement, le futsal français est apparu un petit peu après les autres championnats. Donc je sais qu'aujourd'hui, il y a les pays de l'Est qui sont... Ils ont un petit wagon d'avance sur le football français. Et ce qui est appréciable, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes se mettent de plus en plus au futsal. Et aujourd'hui, ils arrivent à trouver un compromis entre le foot en club et le futsal pour donner justement l'envie à ces jeunes-là peut-être de s'orienter vers l'un ou vers l'autre quand ils commencent à prendre de l'âge. Pour en revenir à des points négatifs du futsal français, il y a tous les clubs de D1, de futsal, qui ont envie que ce championnat grandisse, qui ont envie que ce championnat progresse, qui ont envie que ce championnat soit médiatisé, qui ont envie que l'équipe de France, on l'a vu lors des dernières échéances, malheureusement, ils nous ont un petit peu déçus. C'est normal, ça s'explique par tout un tas de paramètres, mais il y a pas encore aujourd'hui tous les clubs qui tirent dans le même sens et surtout la fédération, malheureusement, qui les aide pas à leur juste valeur. L'envie y est, la progression y est, les adhérents y sont, mais par contre la fédération, malheureusement, aujourd'hui ne joue pas le jeu. Je pense aujourd'hui à Sami Selami, qui est le président d'Access, que je salue, qui a fait un travail incroyable, qui est reconnu par tous les autres présidents de futsal. Je pense à Christophe Belmazza, qui est le directeur sportif de Nantes Métropole. J'ai eu la chance d'aller faire un reportage à l'UJS Toulouse, qui est un club familial mais qui galère tellement à rester.
Il y a eu des fusions à Toulouse, il me semble.
Il y a eu une fusion à Toulouse. Et pourquoi il y a eu une fusion à Toulouse? Parce qu'aujourd'hui, ce club-là galère à exister, en fait. Galère à exister. Il m'a expliqué, en fait, comment il a réussi à créer le futsal. Il a dû, mais tellement faire des pieds et des mains pour que ce club existe. Et aujourd'hui, ce club est en D1. Aujourd'hui, ce club a une école de foot. Aujourd'hui, il a des joueurs qui vont signer dans des centres de formation. J'ai eu la chance de voir tout le travail qui a été fait. Et ce club, il est récent. Alors, pour être optimiste, effectivement, je me dis qu'en si peu de temps, le travail qui a été fait, c'est extraordinaire. Et ça, bravo football français dans son ensemble. Par contre, si on peut faire passer un message, ce serait bien que la Fédération française de futsal joue le jeu. Ça serait bien qu'ils les aident. Ouais. Ça serait bien qu'ils se mettent un petit peu au diapason par rapport au futsal français.
Ouais.
Mais en tout cas, bravo à tous les clubs de D1 et bravo Kevin pour ton oral.
Justement. Merci. Alors, Terence, avant de terminer.
Bravo également, très bon oral. Moi, j'aimerais beaucoup voir, mais alors c'est un peu paradoxal, sur des entraînements de foot à 11, tu puisses mélanger en même temps que tu as un entraînement avec du futsal. Pourquoi ? Parce que tu es sur des thématiques techniques qui sont complètement différentes, mais qui sont complètement, mais qui sont complémentaires. Tu aperçois, moi j'ai beaucoup de copains, on vient parler un peu des anciens Zoran Markovic, Mustapha Othmani, qui était en équipe de France de futsal. Et donc c'est à la base, c'est des joueurs de foot à 11. Et tu t'aperçois que techniquement, c'est des joueurs qui sont au-dessus. Moi j'ai vu Mustapha faire des choses incroyables sur un terrain à 11, sachant que c'est un mec qui vient du futsal. Donc en fait, c'est deux sports qui sont totalement complémentaires.
Ben Yedder aussi.
Ben Yedder, ouais.
International français.
Qui a créé le milieu de terrain
l'OM, mais c'est le meilleur français. Du coup, c'est le meilleur exemple.
Et tu t'aperçois qu'en général, il y en a d'autres même.
Il y a Cacré à Lyon aussi.
Ouais, t'en as beaucoup. Et tu t'aperçois que techniquement, il y a encore beaucoup de lacunes en France. Parce qu'on va nous faire travailler les bases sur tout un tas de choses. Mais techniquement parlant, si on pouvait mélanger, faire un mixte entre le foot à 11 et le futsal, on aurait des joueurs qui seraient incroyables. Techniquement parlant, tu fais le parallèle, tu fais très bien avec Ben Yedder. Tu vois Ben Yedder, tu te demandes s'il est droitier ou gaucher.
Non,
t'en sais rien. Et quand tu vois dans les espaces, les zones de vérité, et ainsi de suite. Et t'as Benzema aussi, un peu à moindre mesure, qui a aussi fait du futsal. Après, hier, on parlait de Benzema par rapport au match contre le PSG. Tu t'aperçois que c'est. À partir du moment où t'as une fibre futsal, techniquement parlant,
ça se voit direct.
Tu sors de n'importe quelle situation. Et je trouve que c'est dommage que les fédés se mettent pas d'accord, et je suis d'accord avec toi, j'en discutais un peu avec des anciens. Moi, je connais pas trop cette nouvelle génération de footballeurs en salle.
Mais
c'est vrai que c'est toujours une problématique, parce que la fédé les aide pas derrière. Et quand tu t'aperçois qu'un club casse la gueule, alors que derrière il a eu un parcours incroyable, je trouve ça dommage que derrière.
Alors, Terence, rapidement, en une phrase, peut-être Jason qui voulait réagir, mis à part Ben Yedder.
Ouais. Non, bah, déjà, Kevin, déjà, bravo à toi. Franchement, même moi, j'en ai appris quelques-unes.
Ouais, sur le futsal.
Comme disait Samir, c'est vrai que le futsal en France, ça mérite quand même plus de soutien de là-haut.
Ouais.
C'est un sport qui monte vraiment en puissance et qui mérite vraiment d'être mis en valeur et qui permet à des jeunes aussi, ouais, comme tu le disais, de pouvoir s'exprimer et mélanger aussi un peu ce qu'ils ont appris dans le foot à 11. Donc, bah, j'espère que dans les prochaines années, vraiment le futsal en France va émerger parce que ça mérite.
J'en discutais, ouais. Tu vois, par exemple, j'ai des amis qui gèrent le club du Kremlin Bicêtre futsal et c'est vrai que c'est compliqué, même à leur niveau.
Regardera un œil de près, c'est promis ça, rien que pour le plaisir des auditeurs.
Je confirme à Kevin que les deux recrues.
On n'a plus le temps, Samir. Ouais, justement, la dernière partie, elle arrive à grands pas. Kevin reste avec nous, c'est promis, rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Allez, de retour pour la dernière partie en ce jeudi 10 février 2022. On est toujours là avec vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, accompagnés de Samir, Diazon, Terence et sans oublier Kevin. Allez, on va s'attarder sur cette dernière partie. Allez, sur le FC Barcelone, mais sans oublier aussi cette Coupe de France.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, le FC Versailles. On verra aussi les autres clubs, mais surtout le FC Versailles, les petits poussés qui font du bien. Cette Coupe de France, Samir.
Bah, c'est tout le charme de la Coupe de France qui permet justement au club amateur d'exister aujourd'hui. Donc ça nous permet justement de
on l'aime pour ça, cette équipe, cette Coupe de France.
Exactement, on l'aime pour ça. Ça nous permet de découvrir des nouveaux joueurs, des belles régions, des belles histoires aussi. Et ouais. Je suis vraiment content déjà pour ces deux clubs parce qu'arriver à ce niveau de compétition, c'est déjà incroyable. Ouais. Alors c'est le banlieusard parisien qui va te parler, Villette. Donc évidemment, je suis très heureux qu'aujourd'hui Versailles, connaissant quelques joueurs qui jouent dans l'équipe et sachant que ça fait de nombreuses saisons qu'ils sont en train de tout faire justement pour ramener des joueurs de très bon niveau, pour augmenter le club, parce que l'ambition de ce club-là, c'est pas d'en rester là, mais c'est encore de continuer à progresser, d'évoluer. Ils veulent évidemment.
Ça fait longtemps.
Ouais. Exactement, ça fait un moment qu'ils ont les moyens. Et pour le coup, Versailles, contrairement à beaucoup de clubs de la région parisienne, ont les infrastructures qu'il faut. Ont tout ce qu'il faut justement pour progresser et pour arriver au niveau où ils ont envie d'arriver. Donc franchement, si aujourd'hui on a des gens de Versailles qui nous écoutent, des joueurs, vraiment bravo à vous. On est très content pour vous et puis j'espère que vous allez nous créer une autre belle émotion, pourquoi pas pour le prochain tour. En tout cas, moi je serai le premier avis. En plus, il n'y a plus Paris Saint-Germain, donc maintenant je supporte Versailles jusqu'à la fin.
Voilà, supporte Versailles, tout comme des autres.
Moi, je pense en Samir, on va pas faire les chauvins entre guillemets, mais ça serait bien de voir Versailles. Pourquoi pas? Allez, on s'enflamme, allez au bout. Ouais. On s'enflamme, ils sont en demi.
Ce serait une belle histoire.
Pas, pourquoi pas. On est plus dans l'utopie. Là, on parle quand même du dernier carré, c'est exceptionnel. Même si c'était que, entre guillemets, Bergerac, au final, c'est deux équipes du même niveau.
Ça se fait sourire,
Bergerac, si je dis pas de bêtises, c'est zéro but encaissé dans cette.
Exactement, c'est ça.
Donc c'était un gros morceau, sans le savoir pour certains, c'était un gros morceau. Ils ont réussi à s'en sortir au tir au but. Donc voilà, au prochain tour, j'espère que cette chance va continuer à sourire, même si je pense que ça va être du lourd, hein, logiquement.
Ouais,
au prochain tour, ça va être du lourd. Mais en tout cas, très très content pour Versailles, le club de Jean-Luc Arribar, entre guillemets, que j'aime bien aussi, personnellement.
Ouais, monsieur Arribar.
Ouais, je suis content pour lui aussi. Donc, franchement,
petit Jean-Luc qui a fait une belle petite carrière du côté du stade Lavallois, ouais, il s'en rappellera.
Toujours la dédicace de Laval. Non, mais vraiment, c'est cool, le foot amateur qui revient en force. Déjà, on l'avait vu dans les tours précédents, il y avait pas mal de clubs de N2. En 16e, si je dis pas de bêtises, il y a eu beaucoup de non-amateurs cette année.
Ce que je trouve intéressant sur cette Coupe de France, tu t'aperçois qu'il y a une qualité au niveau des N2 en termes de qualité de jeu qui est quand même assez aberrante. Franchement, ça devient hallucinant parce que quand tu regardes Versailles, c'est un jeu qui est quand même super propre. Tu prends Linas Moléry qui est en National 2. Pareil, qui a sorti d'Angers, qui a perdu
au pénalty contre Amiens.
Contre Amiens, c'était pas non plus mérité. C'est surtout que tu t'aperçois maintenant, avant, tu avais quelques exploits. Tu avais des clubs à l'époque de CFA qui sortaient une Ligue 2 ou une Ligue 1. Maintenant, c'est.
Et est-ce que c'est pas. On peut voir le problème de l'autre sens. Allez, je vais faire un peu le trouble fait, on va dire. Mais est-ce que c'est. Faut pas non plus se dire qu'est-ce que les clubs professionnels font en fait pour en arriver là à galérer contre des amateurs. Après, en France, c'est quelque chose qui est quand même assez commun, on va pas se mentir, même si comme tu disais c'était plutôt des exploits, on avait déjà vu des amateurs. On en reparlait la dernière fois avec Juan José qui nous disait en Espagne par exemple les parcours qu'on peut voir en France, ça existe pas. Enfin, on voit jamais des, à la fin on se retrouve toujours avec Barça, Real, Atlético, enfin c'est souvent les mêmes. En tout cas c'est la Ligue 1 qui se retrouve dans les 8 derniers. Et en France, c'est vrai qu'on a quand même cette particularité d'avoir des amateurs, là, de plus en plus, comme tu le disais. Est-ce que c'est pas non plus un petit peu inquiétant pour les pros?
Moi, je pense que t'as cette problématique quand on parlait qu'effectivement, sur parallèle hier avec Samir, avec la qualité de jeu du PSG. Hier, il disait on peut gagner 4-0 comme on peut perdre 4-0. Effectivement, c'est toujours la problématique d'un club pro quand tu rencontres un adversaire plus faible, de hausser et garder ton niveau de jeu et ton intensité. Et ça a toujours été problématique à tous les niveaux, que tu sois un club de CFA et que tu rencontres une DH à l'époque ou ainsi de suite. C'était compliqué de se mettre au niveau.
Après, surtout
maintenant que les clubs de N2 très souvent ont des anciens pros ou ont des joueurs qui sont issus des centres de formation ainsi de suite, ce que tu avais pas précédemment. Moi, sur ma génération, je jouais un peu au ballon. Quand tu avais en CFA, tu rencontrais pas des mecs qui étaient spécialement issus de centres de formation ou qui étaient... T'en avais certains, mais
c'est vrai, aujourd'hui, c'est ça.
T'aperçois que dans toutes les équipes, tu rencontres une équipe de National 2 ou même de N3, même en DH maintenant, t'as combien de gamins qui sont issus des centres? Donc, t'as un volume plus important, donc ça en fait aussi partie.
Samir, Kevin.
Du coup, son dernier argument était mon argument principal.
Mais je vais trouver un sous-argument on peut saluer la formation française parce qu'effectivement quand tu regardes le match Bergerac contre Versailles, tu te rends compte qu'en fait que ce soit dans les attaques rapides ou dans les attaques placées, moi ça me faisait penser à un bon petit match de Ligue 2. En fait, j'ai pas vu une grosse différence entre un match de Ligue 2 et le match que j'ai vu entre Bergerac et Versailles. Donc à saluer la formation française, c'est qu'il y a quand même quelque part une culture tactique dans ce pays, donc ça fait plaisir. Et puis comme le disait Terence, effectivement tu as beaucoup d'anciens joueurs qui sont sortis de centres de formation et qui ont quand même aujourd'hui une culture footballistique qui est présente. Il y a quelque chose, il y a un vécu dans les pieds de ces joueurs là donc c'est très intéressant. Et puis on va même parler des niveaux encore un plus bas, et ce sera mon sous-argument du coup Terence, c'est même quand tu vas jouer contre des clubs de R2, de R3, etc., tu as toujours le génie de la ville qui joue dans son club et qui est très très fort et qui mériterait largement de jouer en N2 ou N3. C'est toute la beauté du football français. C'est pour ça que cette compétition me fait kiffer.
On termine avec toi, Kevin, concernant cette Coupe de France.
C'est tellement bon de voir David bousculer Goliath. Moi, j'adore ça. Voir le petit, mettre des petits coups de tatane là au grand. Alors, c'est vrai qu'on disait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est chouette parce que voir justement un club amateur ou on va dire semi-professionnel battre des clubs professionnels, je trouve ça chouette parce que le fossé s'est quand même élargi ces dernières années, sur ces 20 dernières années. Il y a l'argent forcément qui a une grande part de responsabilité là-dedans. Donc je trouve que c'est une belle récompense. Pour le football amateur, c'est génial. Donc je leur souhaite d'aller le plus loin possible, d'écrire l'histoire comme Libourne Saint-Seurin l'a fait, comme Petit Queville, comme à l'époque Calais en 2001 contre Nantes. Voilà. Et d'aller au bout cette fois. Pourquoi pas?
Sait-on
jamais. Donc déjà, il va y avoir
cette Coupe de France. Oui. Allez, on termine avec toi sur la Coupe de France, Terence. Peut-être un truc à rajouter? Oui, j'étais prêt à bondir tout à l'heure.
Oui, je te disais qu'en fait, je rebondissais parce que tu t'aperçois que maintenant, tu as beaucoup d'anciens joueurs pro ou de joueurs issus de centre qui ont commencé à faire carrière et à la fin, ils reviennent sur leur club de cœur, sur leur club d'origine, un peu sur des clubs de quartier ou sur
autre chose.
Ouais. Et à tous les niveaux. Et donc, en fait, je fais le parallèle avec ce que disait Samir. Tu t'aperçois maintenant, tu prends... Moi, à l'époque, en DH, à l'époque, on avait le Racing. T'as toujours un joueur qui est trop fort dans tous ces clubs, tout le temps. Maintenant, à tous les niveaux, même parfois, même des clubs maintenant qui sont en D1, en excellence, seulement l'excellence, t'as un ancien qui a été en centre de formation, soit à Monaco, soit à Lille, au truc. Et il revient pour structurer, aider un peu son club sur lequel il était en tant que gamin et ça le tient à cœur, en fait.
Alors, on poursuit cette émission avec le dernier sujet qu'on aimerait aborder avec vous, messieurs. Justement, un peu d'argent, peut-être dans les caisses catalanes. Et c'est le Barça qui signera, justement, bientôt un accord avec de sponsoring avec Spotify, la marque qui succédera à Rakuten comme sponsor principal du club, qui est le FC Barcelone. Et oui, Jason.
Ouais, bien sûr.
C'est un énorme plaisir, pour d'autres, non.
De ce que j'ai vu, il y a beaucoup de. Bon, il y a certains nostalgiques qui trouvent pas ça forcément positif de changer de nom. Il y a toujours normal le Camp Nou historique, un stade historique. Après, on rajoute juste un nom en plus, Camp Nou Spotify, mais pour certains, c'est déjà trop. Et moi, comme je répondais à ces gens-là,
alors
faut vivre avec son temps et ses réalités.
Voir
ça aujourd'hui, est-ce qu'ils sont en mesure de refuser, entre guillemets, 93 millions d'euros par an avec tout ce qui se passe en ce moment dans le club? On a vu cet été, Lionel Messi a quitté le club pour des problèmes financiers. Donc aujourd'hui, c'est un club qui est dans une situation difficile malgré les recrutements qu'on voit là, qu'ils arrivent à faire. Faut surtout penser à la réalité du club. Donc oui, on va toucher un peu à l'histoire du club. Voilà, Spotify, c'est vrai que ça fait un peu tendance et tout. Pour certains, c'est pas forcément une bonne chose, mais ça va permettre au club de mieux souffler, de respirer. Et puis surtout, c'est un peu la tendance. Il y aura plus beaucoup de clubs qui vont résister à ça.
Ouais, je pense que ça va surtout leur permettre aussi de pouvoir garder leur indépendance.
Aussi, en plus.
Parce que tu mets quand même une bouffée d'oxygène. Avant, t'avais des ardoises. Tu prends le Real ou le Barça, t'avais des ardoises qui étaient phénoménales. Et avec un coup de baguette magique, tu reviens à zéro. Et tu repasses même en positif. J'aimerais bien qu'on fasse pareil, moi, sur mon cas perso. Mais en fait, non, le Barça ne peut pas effectivement se passer. Et en fait, je fais le parallèle sur ce que tu disais au début de Jason, c'est que t'en as toujours qui vont crier au scandale parce que tu changes le nom du club, tu changes l'infrastructure. Regarde, il y a eu la même chose, tu prends l'Atlético Madrid a changé de club, a changé de stade. Ça a été un tollé, tous les sociaux ont fait, tous les...
Mais pas mal, hein. Ils l'ont rempli, ce scandale.
Ils ont tous fait. Ouais, mais tu prends, ça a été un scandale. Quand tu prends, je regardais le reportage sur Wenger.
Alors.
Quand tu prends Highbury, quand ils ont éclaté Highbury.
Highbury.
Alors là, ça a été un scandale. Là, tu touches
quelque chose.
Et tu t'aperçois, sauf que financièrement parlant, t'es obligé de changer de dimension. Sinon, derrière, tu peux pas suivre sportivement parlant. T'es face à des mastodontes. Tu prends City, PSG, tout ça.
Si tu veux tenir la route, t'as pas le choix.
Pour le moment, c'est Parc des Princes, hein, Paris Saint-Germain.
On verra.
Combien de temps?
On verra le jour où Samir, je voudrais bien, si un jour on délocalise le Parc des Princes, je voudrais bien avoir la réaction de Samir.
On verra. Samir et Kevin, pour terminer alors.
Je vais te répondre, effectivement. Vous avez tout à fait raison. Il y a une réalité économique aujourd'hui. Quand tu sais que t'as un trou dans la caisse et qu'on te propose tant de millions, c'est tellement difficile de refuser ça, je suis d'accord. Mais Jason, je fais totalement partie des nostalgiques que tu as cités. J'en fais partie. Moi, je suis fou du football des années 90, début 2000, etc. Aujourd'hui, tu vas me toucher à mon San Siro, tu vas me toucher au Camp Nou, tu vas me toucher à des stades qui m'ont fait rêver. Ouais. Aujourd'hui, tu changes de nom. J'ai l'impression de perdre une identité.
Tu gardes la base, Camp Nou. Enfin, même si il y a du changement.
Mais tu comprends.
C'est comme aujourd'hui, t'as l'Orange Vélodrome. Qui dit Orange Vélodrome, les gars? À part à la télé en direct, voilà, tu as besoin pour le sponsor, tu dis Orange Vélodrome.
Oui, mais tu
en parles les puristes.
Mais tu sais que ça, impacte. Bon, c'est un autre sujet, mais tu sais que ça impacte. Indirectement, t'as tendance à l'appeler comme ça. Et aujourd'hui, là, les jeunes générations, ils vont l'appeler l'Orange Vélodrome. Nous, on va l'appeler Vélodrome.
Samir. Kevin, rapidement.
Tu le prends, on l'a eu il y a peu de temps, nous, en France, quant à les supporters lyonnais. Quand tu passes de Gerland, d'une institution, à Groupama, moi j'ai des amis supporters lyonnais dans les Bodegones, c'est toute la clique. Ils ont juste crié au scandale. Parce que tu
casses
un mythe.
C'est vrai.
Parce que tu passes quand même avec des gros matchs de Coupe d'Europe qui ont été faits là-bas. À Laval, un peu moins.
Moi je vois un petit peu Samir là-dessus. J'ai le côté un peu plus populaire. Voilà, l'argent qui prend quand même beaucoup trop de place. Alors même si c'est une vérité, il faut suivre un peu cette réalité économique. Comme vous dites, moi ça me dérange, franchement. Franchement, personnellement, ça me dérange. Moi, la Baie des Champs, au CERS, on la rebaptise l'Orange Père Barbarin, ça me fait chier. Me fait chier parce que on aime aussi.
Ouais, tout comme sa mère, quoi.
On aime l'histoire, on aime le côté populaire, on aime les valeurs. Les valeurs, en fait, que représente ce sport, et je trouve qu'on les perd de plus en plus.
Merci, Kevin, de nous avoir rendu visite dans cette émission qui est Time Sport. Aussi à toi, Jason, sans oublier Samir et Terence. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM à 22h avec Vanessa, la réalisation avec Giovanni. Et nous, on se retrouve dès demain, 20h. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.